Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité, la radio de la Fédération Anarchiste, et c'est Jeudi Noir qui commence cette fois-ci. Donc nous fêtons notre 100e émission, nous sommes très très contents. Et pour fêter ça, nous avons diffusé un morceau de No Means No, le meilleur groupe du monde, et c'était un morceau qui reprenait...
Avec les Beatles quand même.
Non, c'est No Means No. Et le meilleur groupe du monde, donc qui... comment dire, c'était une reprise des Dead Kennedys, un autre meilleur groupe du monde, qui s'intitule Forward to Death, et c'était issu du virus 100. Donc Virus, c'était le Virus 100, c'était le nom de l'album. Voilà, c'était pour le centième album sorti sur le label Virus de Djello Biafra, le chanteur emblématique des Dead Ken. Donc ensuite, vous avez entendu les Cardiacs de The Obvious Identity, et comme d'habitude, c'est parce qu'il y a un lien avec l'ouvrage dont va nous parler Jean-Mathias, un ouvrage d'Hervé Lebras, je crois que c'est un démographe et historien aussi, dont on avait déjà parlé au sujet justement du vote Front National. Donc c'est dans le comment dire, c'est dans l'actualité, hein, je crois, on peut le dire. Et là, c'est un autre ouvrage qui s'intitule Malaise dans l'identité, qui a été publié chez Actes Sud en mars 2017. Donc c'est là aussi, on est dans de l'actu brûlante, disons. Et on va voir ce que Jean-Mathias a à nous en dire. J'imagine qu'il s'agit d'une réflexion aussi entre justement comment dire, identité, histoire, citoyenneté, toutes ces choses-là. Donc,
D'abord, oui, je vais peut-être dire deux mots sur les raisons pour lesquelles ça m'a intéressé en fait de présenter ce livre ici dans le cadre de l'émission. D'abord parce que, il faudrait qu'on les salue quand même. C'est qu'après l'élimination de Fillon et puis la défaite de Marine Le Pen, on a une petite pensée quand même assez émue pour Éric Zemmour, pour Alain Finkielkraut, pour nos amis du bloc identitaire qu'on salue bien évidemment bien bas. Et dans la mesure où ce livre d'Hervé Lebras, Malaise dans l'identité, démonte en fait pièce par pièce, on va dire, toutes les conneries qu'on entend à longueur de temps sur le malaise identitaire français, hein, voilà, dont vous êtes tous tiraillés, j'en doute pas. Donc ce malaise est démonté finalement, puis voilà, pièce par pièce, de manière assez concise, hein, puisque c'est un petit livre, ça fait à peine une centaine de pages, avec un certain nombre de données chiffrées, historiques, précises, des passages rigolos, tout ça voilà, sans effusion particulière et sans polémique un peu inutile. Donc voilà, c'est un peu ça qui fait l'intérêt de ce bouquin-là selon moi, alors qu'il y a quand même un petit inconvénient, c'est qu'il est préfacé par Jacques Lang, il faut le dire quand même, parce que c'est...
Tu choisis toujours des bouquins qui ont des préfaciers de merde, hein, il faut le dire. La dernière fois, c'était quoi? C'était Onfray. C'est... Onfray qui a soutenu récemment Alain de Benoît, qui soutient depuis un certain temps Alain de Benoît, de l'extrême droite.
Mais peut-être qu'effectivement, on pourrait un jour faire une émission sur l'ensemble des préfaces, en fait, des livres qu'on a présenté, et peut-être que ça donnera une idée, voilà, effectivement, de la ligne générale, effectivement, de cette émission.
Ce serait inquiétant.
Bon, non, blague à part. Donc, bon, il se trouve que, voilà, en l'occurrence, ce qui est rassurant, si on peut dire, c'est que là, le propos d'Hervé Lebras va pas tellement dans le sens de celui de Benoît et des identitaires, patentés, français. T'as déjà dit deux mots de Lebras. Bon, c'est un type qui est assez intéressant. Alors après, il dit c'est pas un libertaire du tout, hein. On est dans quelque chose qui relève plutôt voilà du nationalisme républicain progressiste. Voilà, je dirais, hein, quelque chose de genre là. C'est un historien, un démographe qui a travaillé avec Emmanuel Todd aussi. Sur des livres intéressants. Moi, je trouve à chaque fois. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est démographe, qui travaille donc sur des modèles assez pointu d'études des populations françaises, mais qui met toujours ça dans un cadre, voilà, dans une perspective un peu historique, souvent intéressante, moi je trouve, et c'est un petit peu le cas ici. Alors c'est pas un bouquin très très ambitieux. Il part, alors bon, visiblement ça lui restait quand même en travers de la gorge, comme un certain nombre d'entre nous. Son point de départ, c'est le fameux débat sur le ministère, le débat sur l'identité nationale qui avait été évidemment initié par le président Sarkozy, hein, c'est comme ça qu'on dit. Et en fait, son bouquin s'emploie à démontrer que tous les thèmes, tous les fantasmes, toutes les questions soi-disant existentielles soulevées par la question de l'identité nationale ne reposent sur rien en termes de réalité démographique, culturelle, historique, De la population française. Voilà.
Alors, qu'est-ce qui est un fantasme exactement? Est-ce que le fantasme, ouais, c'est le grand remplacement qui fait flipper
entre autres, oui,
tous les. Mais ouais, ça, on sait que ouais, le grand remplacement, pour nos auditeurs ouais, qui le sauraient peut-être pas, c'est le délire d'extrême droite qui consiste à ouais, dire que, en gros, la population française de souche est menacée d'être remplacée par des hordes musulmanes galopantes et se reproduisant à vitesse éclair. Ouais. Et donc, en gros, ils craignent de voir nos belles églises être remplacées par des mosquées.
Alors il en parle bien évidemment.
Et donc il y a ça, donc ça pourrait être ce fantasme dément.
Il y en a plusieurs, c'est-à-dire que je peux donner le plan.
Où est-ce que le fantasme, c'est celui de l'identité française?
Ben c'est celui-là, c'est-à-dire en fait...
D'accord, alors, enfin, tu vois, du genre que quelque chose comme l'identité française existerait.
Alors, c'est là où peut-être, bon, on va rentrer un peu dans le fond, c'est là où on n'est peut-être pas obligé d'être entièrement d'accord avec lui. C'est-à-dire que lui, il pense bien qu'il y a effectivement une réalité de l'identité française, mais alors qui ressemble, mais alors absolument pas à tout ce qu'on essaie de plaquer dessus. Alors donc, je vais en dire deux mots, donc ça, on n'est pas obligé d'être d'accord avec lui, hein, c'est évidemment sur cette idée-là. Mais je donne peut-être, bah, pour répondre à ta question, le plan du bouquin, pour avoir une idée des thèmes abordés. Donc alors le départ, bon, j'y reviendrai après, bon, sur les différents critères qui sont toujours avancés pour essayer de justifier une espèce d'identité française, d'identité des Français. Le deuxième chapitre est consacré justement à cette question de la race française supposée et du grand remplacement, la théorie du grand remplacement que tu viens d'évoquer. Le troisième chapitre est consacré aux supposées racines chrétiennes de la France. Le quatrième est consacré à ce qui serait soi-disant des mœurs françaises, donc sur le sens du mode de vie, de la culture, etc., ce genre de choses. Cinquième chapitre consacré à la question de la langue. Est-ce qu'on peut chercher dans la langue française une espèce de critère qui permettrait d'identifier une identité française? Le sixième est consacré à la culture. L'avant-dernier, à la question de l'histoire et du récit national, puisque c'est aussi une des manières dont on justifie parfois l'existence d'une identité française. Et le dernier, évidemment, est consacré à la question de l'immigration et des musulmans dans notre pays. Très rapide, hein, je le dis tout de suite, voilà, il y a 8 pages, mais bon, boum, après en 8 pages, c'est à peu près expédié. Donc c'est l'avantage. Alors, il rappelle quand même, et c'est toujours bon de se le rappeler, la liste en fait du questionnaire qui avait été proposé par le ministère de l'Identité nationale pour organiser le grand débat. Alors en fait, la question c'était, il rappelle que préfet, c'est tout au début du livre, que préfet et sous-préfet avaient été chargés de consulter la population sur une série, je cite entre guillemets, hein, d'éléments de l'identité nationale. Donc la liste fait penser à l'inventaire de Prévert, nous dit Hervé Lebrun. Alors je rappelle la liste quand même parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. Nos valeurs, point d'interrogation. Notre universalisme, point d'interrogation. Notre histoire, point d'interrogation. Notre patrimoine, point d'interrogation. Notre langue, point d'interrogation. Notre culture, notre territoire, notre paysage, notre agriculture, notre art culinaire, point d'interrogation. Notre vin, point d'interrogation. Notre art de vivre, point d'interrogation. Notre architecture, nos églises, nos cathédrales, point d'interrogation. Notre industrie, nos hautes technologies. Ce que nous avons fait ensemble, point d'interrogation. Et pour finir, ce que nous voulons faire ensemble. Voilà. Alors, évidemment, c'est vrai que quand on relit le questionnaire de départ, il n'est pas très surprenant que ça ait tourné effectivement au fiasco, mais total, quoi, en fait. Alors, je me rappelle, je sais pas si vous aviez vu à l'époque ces vidéos de, je sais plus dans quelle sous-préfecture ou sous-préfecture organisant le fameux débat. Il y avait des mecs qui s'étaient amusés à se pointer au débat avec un accent du sud-ouest, mais à couper au couteau, qui était proprement, mais incompréhensible, et qui expliquait qu'ils avaient un problème, quoi, parce qu'évidemment, bah, avec ces jeunes et puis avec tous ces immigrés, en fait, on comprenait plus rien ce qu'ils disaient. Le type avait une élocution qui était absolument imbitable. Il avait fini par se faire sortir de la salle. C'était évidemment une caméra cachée. Mais effectivement, quand on revoit la liste, quoi, des thèmes, enfin, comment est-ce possible? Bref. Donc, alors, plus sérieusement, en fait, son point de départ, ça va être, je l'ai dit, hein, lui, il a une conception, je dirais nationaliste, progressiste, on va dire, voilà, républicaine, un peu classique, hein, de l'affaire. Et en fait, son point de départ, ça va être de repartir de la fameuse formule d'Ernest Renan, donc un philosophe, voilà, du 19e, et qui définit donc la nation comme un plébiscite de tous les jours. C'est ça, la définition de Renan. Et il rappelle, alors ça c'est un peu moins connu, qu'effectivement Renan, déjà d'une certaine manière, en fait, finalement, répondu un peu par avance à toutes ces conneries là d'identité nationale sarkozyste, zémourienne, identitariste, etc. En montrant que, par exemple, pour ce qui était des questions de race, alors bon, évidemment, on parle plus de race dans le débat national, parce que ça, c'est voilà, mais bon, on fait quand même bien l'effort pour essayer de retrouver quelque chose d'équivalent, même si c'est en plusieurs morceaux. Alors, il rappelle que Renan, pour la race, avait montré que, en fait, ça avait joué aucun rôle, en fait, dans l'histoire de France, notamment dans la partie romaine. Hein. Pour l'ethnographie, pour les mœurs, donc il citait le cas du découpage de l'Empire carolingien au traité de Verdun, qui correspondait à aucun regroupement de peuples ayant des coutumes communes. Donc, pour ce qui est de l'histoire de France, c'est pareil. On ne retrouve aucune identité de mœurs qui serait, voilà, pérenne à travers l'histoire. Il insistait aussi sur la rapidité avec laquelle toutes les populations s'amalgamaient, que ce soit dans la Normandie, donnée aux Vikings, ou dans l'Angleterre après la victoire de Guillaume le Conquérant. Pour la langue, Lebrun rappelle qu'il y avait beau jeu de souligner que la répartition des langues ne correspond jamais, ou pratiquement jamais, à celle des États. L'espagnol est parlé dans toute l'Amérique latine, le français au Canada, en Belgique, en Suisse, hein, sans oublier l'Afrique. Mais à l'époque de Renan, la colonisation n'était pas encore achevée. Pour la religion, Renan, hein, qui lui-même est un auteur catholique, hein, quand même, accumulait aussi les contre-exemples, soulignant que les nations de son époque, les religions coexistaient car elles étaient devenues des choses individuelles. Les intérêts économiques, pas davantage, il opposait le développement déjà à l'époque des échanges internationaux. Quant à la géographie, hein, concluait Renan, elle n'était pas capable non plus de décider lesquelles des montagnes ou des fleuves servaient de frontières. Bien évidemment. Hein. Donc, alors, déjà, dès le départ, si vous voulez, c'était assez mal engagé, en tout cas du point de vue de Renan. Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Donc, alors, il pose la question, il part évidemment de la question du grand remplacement. Donc, ça, c'est une espèce de parano qu'on doit à Camus, hein, le romancier français. Alors, pas Albert, hein, mais c'est,
oui, Renaud,
c'est,
Camus.
C'est Renaud Camus, hein, Renaud Camus, qui est une espèce de catholique décadent, retranché dans son château auvergnat, et dans sa nostalgie de, je sais pas quoi, d'une espèce de pureté culturelle française.
Mais pureté de la langue, évidemment.
Pureté de la langue, dès le départ, bien évidemment, puis ensuite de la culture, et puis voilà. Et donc, le risque, évidemment, que redoute Renaud Camus, c'est que petit à petit, sans qu'on s'en rende vraiment compte, sauf les patriotes conscients, il y ait en fait une espèce de remplacement de la population, hein, d'ordre démographique. Donc là, on n'est pas loin effectivement du racisme, voilà, le plus classique, qui est en route, à cause de l'immigration, hein, ma bonne dame, et notamment de l'immigration musulmane, puisqu'en fait ça veut dire pratiquement la même chose, hein, les autres c'est pas vraiment des immigrés, enfin bon, quasi pas des immigrés quand ils sont blancs, hein.
Et quand ils sont blancs.
Quand ils sont blancs, voilà. Et donc la question, effectivement, elle mérite d'être posée d'après le mois, pour montrer à quel point elle repousse sur que dalle, quoi. Donc il commence au chapitre, existerait-il une race française, hein, se demande-t-il, page 31.
La question est taquine.
Voilà, la question est taquine. Les auteurs d'extrême droite qui parlent d'un grand remplacement le supposent, puisqu'ils accusent, hein, remarque Lebrun, les immigrés nombreux et prolifiques de se substituer aux descendants des Français, voire des Gaulois. D'autres auteurs venus de tout autre spectre politique opposent une population de souche, nous dit-on, à une population immigrée. N'osant pas prononcer le mot race, ils utilisent le terme d'ethnie. Et alors, là encore, il rappelle que Renan, finalement, avait déjà lui répondu par avance, hein, en disant que la vérité, c'est qu'il n'y a pas de race pure et que faire reposer la politique sur l'analyse ethnographique, c'est la faire porter sur une chimère. Alors, il cite deux, trois auteurs encore qui discutent de ça. Alors, il y a un petit l'intérêt de ce petit chapitre-là, c'est qu'il rappelle, en fait, il cite quand même à plusieurs reprises des auteurs qu'on a oubliés, quoi, c'est-à-dire tous les théoriciens et les idéologues racistes du 19e, français notamment. Donc Gobineau, qui est un des plus connus, mais il cite aussi, je ne connaissais pas, un certain Vacher de la Pouge, hein, le plus grand théoricien français raciste de la fin du 19e, avec cette formule que, voilà, qui est éclairante en même temps, donc de ce fameux Vacher de la Pouge, là, ce mythère raciste du 19e, qui déclarait déjà à l'époque, il y a une infinité d'individus qui n'appartiennent à aucune race à force d'appartenir à plusieurs, et dont le sang est souillé de manière définitive. Donc à la notion de race, il faut en d'autres termes opposer celle d'individus hors race, de parias zoologiques. Et alors, en fait, ce que Lebrun montre, c'est que...
Il visait les juifs, là, ou quoi?
Ah, pas seulement
le Vacher
juifs.
De la Pouge.
Les métis,
la grande trouille de tous ces gens-là.
Exactement. Ouais. Et en fait, ce qu'il rappelle, c'est que finalement, cette histoire de grand remplacement, finalement, il faut... Bon, alors, évidemment, il y a la peur de l'arabe, musulman, etc. Mais en fait, ce qu'il y a derrière, profondément, pour que ça ait sa logique, si tu veux, ce discours-là, c'est une espèce de hantise du métissage. C'est-à-dire qu'effectivement, les races, effectivement, sont en perdition depuis très longtemps, et donc il faut les restaurer en quelque sorte en créant effectivement les zones où on va stocker les parias, ceux qui sont pariens quoi, ou gaulois ou ce que tu veux.
C'est une différence avec Gomino. Gomino, son cas était beaucoup pénalisé dans le premier bouquin qu'on avait présenté en septembre de cette année scolaire, qui était justement où il disait que pour Gomino d'une certaine manière il était pessimiste et il pensait que de toute façon les races allaient se mélanger quoi qu'il arrive et disparaître dans une espèce de grand melting pot. Et t'avais cette version là du racisme. Genre, on fonce vers la décadence. Et puis après, t'avais ceux qui, justement, rêvaient de sauver.
Bah oui, c'est ça.
La soi-disant race.
Et donc, la vraie cible, si tu trouves le point d'application de cette histoire de grand remplacement, d'après le bras, si effectivement ils étaient cohérents, ça serait de viser les unions mixtes. Alors bon, les unions mixtes, puisque c'est effectivement le facteur du grand remplacement, il est là en réalité, hein, puisque si. En tout cas, c'est ce qui est à l'œuvre, quoi. C'est ce qui est actif là-dessus. Alors. Il rappelle, toujours dans le même chapitre, les unions mixtes sont ainsi mises en doute au prétexte qu'il s'agirait en fait d'union d'une personne de la seconde génération de l'immigration, donc française, avec un ou une ressortissante du pays dont sa famille était originaire. C'est ce type effectivement là, donc en gros, l'immigré deuxième génération avec l'immigré première génération. Alors là, on a effectivement un vrai risque puisque on a quelque chose qui corrompt à la fois la nationalité et la race supposée. C'est là qu'il faut stopper l'affaire. Alors, ce qui montre, c'est que les statistiques concernant ce type de mariage représentent pas grand chose en fait. C'est-à-dire que ils montrent les statistiques des États-Unis représentent moins d'un quart des mariages des immigrés non européens. Chiffre analogue, rappelle-t-il, à celui des mariages de Bretons avec des descendants de Bretons, ou d'Alsaciens avec des descendants d'Alsaciens, est bien plus faible que ceux des mariages de riches avec des enfants de riches, par exemple. Et il y a un fait, effectivement, démographique quand même massif, qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on se marie en général dans son proche milieu, ce qui n'est pas une découverte, inutile, et encore moins une raison pour jeter des discrédits sur les unions mixtes qui témoignent d'une différence d'origine des deux conjoints, même légère. C'est-à-dire qu'en fait, ce problème-là, le grand remplacement, c'est-à-dire l'installation sur le sol français de couples d'origine étrangère qui donc mettrait bas en fait de nouveau une nouvelle race de remplacement, en fait c'est que dalle quoi. C'est-à-dire qu'en fait statistiquement en termes de proximité, c'est un facteur beaucoup moins important que la proximité sociale et que l'homogénéité sociale qui se produit effectivement dans les mariages. Alors il rappelle aussi, ce qui mérite quand même d'être dit, que par sa nature, et ça effectivement c'est peu dit, c'est que toute idéologie raciale est forcément antidémocratique. Ça c'est... Alors bon, on le sait, mais ça mérite toujours d'être rappelé. Il rappelle par exemple que, une citation d'Alexis Carrel, alors aussi grand eugéniste devant l'éternel. Le
biologiste lyonnais. Qui est toujours en honneur à Lyon d'ailleurs. Il y a une fac qui est dans la rue Alexis Carrel.
Tout à fait.
On a oublié ce genre de petits types sympas.
Et Carrel, au moins, il avait le mérite de voir les vrais enjeux, effectivement, de ses convictions, parce que il cite dans L'homme, c'est inconnu, qui était son
prix Nobel, Alexis Carrel.
Et cette petite formule qui, quand même, alerte un peu, Alexis Carrel déclarait « Il importe désormais que les classes sociales soient des classes biologiques ». Biologique. C'est-à-dire que derrière, il y a sur les fameuses articulations entre race et.
C'est très très vieux, ça renvoie à des trucs du 19e chez un historien français qui s'appelait Augustin Thierry. Qui justement développait l'idée que la lutte des classes est en réalité une lutte des races, parce que pour lui, les dominants, c'était les descendants des Francs qui avaient envahi les Gaulois, qui étaient les Gaulois romains, qui avaient été soumis en gros par une race plus forte, et que par conséquent, il fallait surtout pas,
Alors, sauf que là, il me semble que l'idée est un peu différente, parce que c'est un point de vue politique, là, le point de vue de Carrel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un programme. C'est pas un constat ou une analyse historique, c'est un programme. C'est-à-dire que il y a effectivement ce métissage qui corrompt la race, qui corrompt l'essence, le sang français, etc., etc. Donc effectivement, Haro sur les unions mixtes, ça c'est la version effectivement contemporaine. Par exemple. Tous les cris d'orfraie sur les ravages du rapprochement familial, bien évidemment, on est sur ce point-là, c'est pas autre chose. Voilà. Et effectivement, il y a chez Carrel une dimension de projet politique, c'est-à-dire que effectivement, ça se corrompt, et si on veut effectivement remettre de l'ordre dans tout ça et redonner effectivement, restaurer en quelque sorte la race, eh bien effectivement, il faut aussi taper effectivement sur la classe sociale. Et c'est ce que dit Lebrun en rappelant que seul un régime totalitaire peut en effet tenter d'organiser la société selon un principe racial, car dès l'origine, les humains se sont mélangés. Donc si on veut effectivement restaurer ça, il va falloir effectivement classer, hein, classer. Et ça, effectivement, ça peut se faire que de manière effectivement totalitaire ou antidémocratique, quoi. Ça, c'est le principe. Alors, donc voilà,
Oui, c'est-à-dire que ça implique de légiférer sur la vie privée d'une manière monumentale.
Absolument.
De contrôler qui les gens fréquentent, avec qui les gens couchent, avec qui les gens font des enfants, etc., etc.
Et donc, si on s'en tient, en tout cas, aux données démographiques, et voilà, à la fréquence des mariages, aux enfants qui naissent, des mariages mixtes ou pas, etc. Alors, bon, je vous passe un peu les chiffres, parce que c'est sa spécialité, mais à l'antenne, ça passe un petit peu moins. Mais la conclusion qu'il en tire, lui, c'est que finalement, le grand remplacement en cours, c'est pas celui d'une race par une autre, pour la bonne raison que cette race, elle est de toute façon introuvable. C'est bien la généralisation du métissage. C'est à ça qu'on assiste, en fait, hein, que ce soit la France ou ailleurs. Ce qui procure, de manière assez plate, hein, le bras, voilà, ce qui procure une plus grande diversité biologique, une meilleure chance de survie à l'espèce humaine. Voilà. Et si l'identité de la France devait être décrite en termes biologiques, si on veut prendre effectivement ce prisme-là, en fait, c'est une réalité du métissage. Voilà. Depuis toujours et toujours en cours, en réalité.
Voilà. On va faire une petite pause là-dessus et puis on se retrouve après. Vous écoutez Jeudi Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et nous poursuivons donc la présentation d'un livre d'Hervé Lebras, historien et démographe. Livre qui s'intitule Malaise dans l'identité, publié chez Actes Sud en 2017, en mars. Voilà, et donc là, on venait de suivre la façon dont Lebras démonte cette idée fumeuse de grand remplacement. Et maintenant, Jean-Mathias va nous expliquer comment Lebras déracine nos soi-disant racines chrétiennes, en sachant que le thème de l'enracinement, c'est un très très vieux thème de l'extrême droite française, ouais, qui craint plus que tout le déracinement lié à la fuite des campagnes, à l'arrivée dans les grandes villes, où justement tous les gens se mélangent de manière incontrôlée et dégoûtante.
Et dégoûtante, tu
vois. Voilà, pour l'extrême droite française. Et après, aussi allemande d'ailleurs, un des grands dangers, c'est le déracinement. Ouais. Sachant que le déraciné par excellence, évidemment, est souvent le juif, ouais, dénoncé pour cette raison. Donc voilà, des idées peu ragoûtantes on va passer aux racines chrétiennes.
Ouais, alors ça, celui-là, c'est mon préféré, je pense. C'est sur les racines chrétiennes, j'ai trouvé que c'était le plus savoureux. Je sais pas pourquoi, voilà. Mais.
Ah oui, les déracinés, c'est un roman de Barrès, hein, soit dit.
Ouais, ouais. Bah oui. Alors donc là, je parlais de Fillon, et puis voilà, du malheureux Fillon en début d'émission. Bon, alors on pourrait penser évidemment à Marion aussi, pour Marion Maréchal Le Pen, pour qui on a une petite pensée, évidemment, émue. Puisque c'est des choses auxquelles tous ces gens la tiennent, hein, plus que tout, puisque c'est une évidence historique. La France a des racines chrétiennes, parfois judéo-chrétiennes, lorsqu'on est un peu ouvert à l'extrême droite. Mais c'est une évidence historique, historico-culturelle, quoi, tellement massive. Si tu veux, t'as qu'à regarder le calendrier, t'as qu'à voir.
Voilà. Bon. Il y a des saints partout.
Alors, comme dans le reste du bouquin, en fait, le bras, ce que j'aime bien dans sa manière de faire, si tu veux, c'est qu'en fait, il prend au sérieux, en fait, ce que disent ces guignols là, et il sous-estime pas d'ailleurs hein, l'espèce de séduction effectivement et d'évidence immédiate que peut avoir cette idée d'identité là, hein, puisque c'est ça serait un peu naïf de le faire, mais systématiquement, en fait, il polémique pas, en fait, il va essayer de regarder les faits. Voilà. Donc, effectivement, le grand remplacement en quid, ouais. Les mariages mixtes quid, les naissances quid, ouais. La race originaire quid, qu'est-ce qu'on fait si on est conséquent pour effectivement rétablir des races, restaurer des races, ou que ce soit. Bon, bref.
Moi, ça me fait penser à un vieux bouquin de Robert Mouchin-Bled sur justement mythes et croyances populaires où il essayait de montrer que la christianisation de la France avait été extrêmement longue, extrêmement douloureuse, extrêmement partielle, et que pendant juste limite jusqu'au 15e, 16e siècle, il y avait des tas de paysans dans les campagnes qui en fait croyaient surtout aux fées, aux elfes et aux trolls, et avec des prêtres qui essayaient de leur faire croire que les fées c'était la Vierge Marie, le troll, le diable et des trucs de ce genre-là, quoi, et que la christianisation n'était pas du tout en fait une évidence. Alors, je sais pas, qu'est-ce qu'il en dit lui ?
Il y a aussi un truc intéressant dans cette histoire des racines chrétiennes, c'est qu'il dit qu'en fait, alors bon, évidemment, c'est revendiqué par l'ultra-droite et puis une partie de la droite filloniste, comment on dit. Bon, de toute façon, on n'en parlera plus. Donc voilà, c'est revendiqué par ça. Mais en même temps, il dit que parfois, c'est aussi utilisé, y compris par leurs adversaires. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui tiennent pour évident qu'il y a une forme d'électorat catholique en France, hein, comme si effectivement il y avait cette espèce de terreau, de racines, enraciné dans le sol français. Alors, ça n'existe pas d'après lui, c'est-à-dire en fait cette affaire-là. Donc il rappelle bien que Fillon n'ait pas utilisé l'expression, ne serait-ce que parce que son affiliation à l'Église catholique paraissait plus sérieuse, les commentateurs ont souvent attribué sa victoire à l'influence de l'électorat catholique. Et lui, bon, alors il détaille pas, mais il montre qu'un examen des résultats au niveau local montre que c'est pas le cas en fait. Hein. C'est contrairement effectivement à une image, un symbole, etc., revendiqué ou honni. La religion catholique est-elle alors, se demande-t-il, un élément central de l'identité de la France et de celle des Français ? Renan ne le pensait pas, dit-il, et nous avons aussi plusieurs raisons d'en douter. Alors, là encore des faits. Qu'en est-il concrètement de la religion chrétienne en France ? Alors, on va faire large. Alors des chiffres, là je les donne quand même parce que c'est toujours bon à avoir en tête. En rassemblant toutes les enquêtes de l'IFOP qui posaient une même question sur la religion, soit 54 000 questionnaires, ce qui est à peu près 20 fois plus que ce que fait le moindre institut de sondage, hein, on constate que 12,5% de la population française majeure affirme assister régulièrement à la messe. 12,5%. Dans la classe d'âge des 25 à 34 ans, le pourcentage tombe à 6,6%. La chute de fréquentation religieuse a été rapide puisque 40% des Français se rendaient à la messe tous les dimanches au milieu des années 65, selon une grande enquête menée alors dans les paroisses.
6,6% tu disais ?
Pour les 25-34.
Ah, c'est peut-être l'électorat de Benoît Hamon.
Une attention plus proche des résultats montrait que ce n'est pas le cas. Alors, le déclin du catholicisme est saisissant, nous dit Lebras. Les protestants ne sont sans doute guère mieux lotis. Dans l'enquête de l'IFOP, 3% des Français revendiquaient cette appartenance religieuse, dont vraisemblablement une majorité de fidèles des églises évangéliques. Même pourcentage de 3% pour ceux qui se déclaraient musulmans. Dans une enquête un peu plus ancienne de la Sofres, pour le compte du magazine confessionnel Le Pèlerin, le niveau de pratique des catholiques était à peu près le même, puisqu'un tiers de ceux qui se disaient protestants ou musulmans se rendaient au moins une fois par mois dans un lieu de culte, donc à peu près 500 000 fidèles dans chacune de ces deux religions. Alors, même si la pratique religieuse est faible, se demande Lebras, la doctrine de l'Église ne reflète-t-elle pas le mode de vie des Français ? Là encore, des faits, la réponse est négative, d'après Lebras, pour trois raisons. En fait, c'est que l'Église a une conception archaïque de la femme, de la famille et de l'autorité, qui correspond pas, effectivement, aux mœurs françaises, du moins envisagées d'un point de vue statistique. Les femmes n'ont pas le droit de devenir prêtres, ni évêques, ni cardinal, ni pape. Le mariage ne peut être rompu par un divorce qui entraîne l'interdiction de recevoir les sacrements. Les moyens modernes de contraception pratiqués par une grande majorité des Françaises sont interdits, de même que l'IVG est puni par une excommunication. Enfin, d'un point de vue politique, la forme de gouvernement de l'Église est rétrograde, avec une organisation pyramidale au sommet de laquelle trône le pape réputé infaillible. Conclusion, on est très loin des formes démocratiques du pouvoir en France. Bien. L'Église catholique n'est donc plus un élément de l'identité ni de la France, ni des Français.
Alors je le trouve un petit peu optimiste sur la, sur la réelle démocratie en France, mais bon, ça c'est un point de vue perso.
Du point de vue de l'adhésion aux institutions républicaines, on est assez loin de l'organisation de l'Église catholique quand même.
Certes, mais...
Bah c'est tout.
Ouais, ouais. Non, en fait, c'est ouais, bon, tu vois, le mode triangulaire avec un type infaillible qui décide de tout.
Oui, c'est vrai qu'on l'a là maintenant.
Tu vois, c'est pas seulement le général de Gaulle, quoi. Ouais, c'est un petit peu ce qu'on appelle le président de la 5ème République en France. Ensuite, c'est vrai qu'au niveau, des mœurs, au niveau de tout un tas de choses. Bon. Après, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que l'Église est organisée comme l'État ou est-ce que l'État est organisé comme l'Église ? Donc, de ce point de vue-là, on pourrait se demander si peut-être le pape n'est pas qu'une ressuscité un petit peu palote du président de la 5ème République française. Après tout, le pape n'a pas de mot nucléaire.
Mais bon, t'es en train de lancer l'hypothèse que l'Église catholique aurait copié la 5ème République
depuis 2000 ans.
Ouais. Ah, tu parles des racines républicaines de l'Église catholique, quoi.
Voilà. D'accord. Non, je pense qu'il fallait loin.
C'est assez à débattre. Bon, voilà. Moi, après, le standard est ouvert. Alors, donc là, on en est sur la question des mœurs, sur la question du rapport aux institutions politiques. Bon, alors, évidemment, c'est pas seulement ça que les racines chrétiennes mettent en jeu, hein, d'après leurs partisans, voilà. L'expression des racines chrétiennes est aussi assez rapprochée de celle de civilisation, alors judéo-chrétienne, dans ce cas-là, parce que bon, on vise un peu large. Alors, quelle est la place, effectivement, et l'héritage de cette civilisation judéo-chrétienne dans la France d'aujourd'hui ? Ben, en fait, pas grand-chose, dit Lebrun. Les religions juives et chrétiennes ont influencé notre civilisation, mais très peu, finalement, en regard de l'héritage reçu des Grecs et des Romains, lui dit-il. Il serait plus juste de parler de nos racines gréco-latines, ou bien de notre civilisation gréco-latine. Peut-être de l'inscrire dans la Constitution, pourquoi pas, ça mange pas de pain. Mais en tout cas, du point de vue de l'histoire des civilisations, il n'y a pas photo. Des racines que dans un premier temps, d'ailleurs, ces racines gréco-latines, le christianisme s'est employé à supprimer, détruisant systématiquement la culture scientifique de l'Antiquité. Alors là, il y a un petit rappel assez marrant, effectivement. Il dit, par exemple, le modèle planétaire de Ptolémée, donc hérité des Grecs, avec ses 17 sphères emboîtées, tournant les unes sur les autres, reproduisait avec une grande exactitude le mouvement des objets célestes. Il était faux, mais au moins il était cohérent. Celui de l'évêque Lactance, au 5e siècle, en est bien incapable, rappelle-t-il. Parce que cet évêque judéo-chrétien, enraciné dans le terroir, supposait à l'époque que la Terre est plate et qu'à ses limites, dans quatre directions, quatre montagnes soutiennent le ciel. Le soleil tourne autour et quand il passe derrière une des montagnes, eh ben il fait nuit. Donc du point de vue de l'héritage effectivement judéo-chrétien, que par exemple effectivement sur la dimension scientifique, il a de sérieux doutes. Alors ce qui rappelle, voilà, c'est que le miracle grec, comme on dit parfois, nous a transmis les sciences, les mathématiques, la philosophie, la démocratie. L'Empire romain nous a légué le droit, l'administration, l'ingénierie des ponts, des routes et des bâtiments de prestige comme le Panthéon romain. Cette filiation s'exprime concrètement quand il s'agit d'ailleurs de trouver un mot savant nouveau. On pioche dans les racines latines et grecques. Quel est l'apport du christianisme au regard ? Point d'interrogation. Bon. Alors, ça, c'est pour effectivement les racines chrétiennes. Donc, alors, évidemment, ça va vite. Mais.
Ouais, parce qu'on pourrait beaucoup discuter, mais bon.
Oui, on pourrait beaucoup discuter, mais j'aime bien la manière dont il pose le problème.
Oui, c'est clair que dégager de cette façon-là les racines chrétiennes, c'est un côté. Tant qu'à faire, on peut trouver d'autres racines. C'est-à-dire. Et on pourrait encore en trouver d'autres, j'imagine.
Oui, et puis les exemples qu'il donne ne sont pas négligeables.
Non, c'est vrai. Je pense au droit romain, effectivement.
Quand tu fais le compte, effectivement, ça mérite d'être discuté. Alors,
je rappellerai qu'on avait aussi quand même mentionné Graeber quand il écrivait des choses intéressantes au sujet, justement, de la question de savoir si la démocratie nous naît des Grecs.
Là, c'est un autre débat. Là, je dis de toute façon, encore une fois, encore une fois, on n'est pas obligé d'être d'accord avec lui.
Dans un
modèle, effectivement, plus.
Donc, mettant qu'il déracine des racines chrétiennes, moi, ça me fait plaisir. Mais après, bon, on peut aussi. Rappeler deux, trois autres trucs.
Alors, ensuite, on passe à l'étude de cette idée, fameuse identité française qui serait fondée sur les mœurs, sur les manières de vivre. Alors là, c'est plus le géographe qui parle. C'est là où on retrouve effectivement un peu son approche nationaliste progressive, je dirais, parce qu'on peut pas trop lui imputer non plus pire trop que ça. Il dit la grande variété des mœurs en France tient d'abord à la situation géographique particulière de ce pays, seul pays d'Europe où les influences nordiques rencontrent celles de la Méditerranée. Alors qu'ailleurs sur le continent, où les Alpes puis les Carpates séparent le sud du nord, la fusion des deux traditions n'a jamais été complète. De longue date, la France du Sud s'est distingué par le maintien d'un droit écrit issu de Rome, par une langue d'oc, par des coutumes d'héritage inégalitaire, alors qu'au nord de la Loire, au contraire, le droit était oral, coutumier, que la langue était d'oïl, et que les parts des héritiers étaient inégales. Ça, c'est un de leurs thèmes favoris avec Tone, hein. C'est effectivement d'essayer de penser l'impact sur les mœurs, notamment, et sur le rapport au pouvoir, et sur, effectivement, les modes de vie en général, des systèmes d'héritage. Hein, les systèmes d'héritage. Donc on a cette première, effectivement, cassure depuis très longtemps entre le Nord et le Sud, donc marquée par une différence de langue, par les coutumes d'héritage. Et ça, c'est la première opposition. À cette première opposition s'en superpose une deuxième, nous dit-il, presque aussi ancienne, entre les pays de bocage à l'ouest et au sud-ouest, avec leurs haies, leurs fermes isolées, et les pays de champs ouverts ou open field au nord-est, à l'est et sur le rivage méditerranéen, avec un habitat groupé en ville et en village. L'habitat est aussi effectivement quelque chose qu'ils étudient régulièrement. Dans un beau livre, l'historien Marc Bloch a montré que ces formes distinctes de peuplement et de pratiques agraires, et les pratiques agraires qui leur étaient associées, avaient forgé des différences importantes de sociabilité encore visibles aujourd'hui. On aura une troisième ligne de partage, nous dit-il, qui a été évoquée dans le chapitre précédent et qui passe entre les pays de tradition catholique, où les solidarités locales sont fortes et la méfiance vis-à-vis de l'État subsiste, et les pays déchristianisés de très longue date, qui attendent beaucoup de l'État et qui en reçoivent moins qu'ils n'espèrent, avec leur chômage plus élevé, plus forte proportion de pauvres et de personnes sans diplôme aujourd'hui. Et les modes de vie familiales et les opinions politiques se conforment assez nettement à ces trois lignes de division en France. La faible fécondité et la cohabitation des générations caractérisent le Sud-Ouest, le mariage plus tardif, la fréquence plus élevée du célibat, la faible proportion de naissances hors mariage ont longtemps différencié les régions catholiques des autres. Et en même temps, on est là sur déjà... Alors bon, on voit bien ces lignes de fracture ou ces lignes d'opposition, et il faut ajouter à ça, évidemment, à ces premières découpes régionales, nous dit-il, se fendillent en une multitude de particularismes locaux, bien entendu, dès qu'on commence à zoomer sur tel ou tel territoire. Alors il prend le cas de la Bretagne et des différents cantons bretons, en montrant que dès qu'on est dans le détail, on retrouve des fractures et des divisions au moins aussi importantes que celles qu'on observe à l'échelle du territoire national. Alors tout ça pour dire que du point de vue d'une espèce d'identité des mœurs ou des modes de vie, vie familiale, rapport à la filiation, solidarité villageoise ou pas, individualisme ou pas, rapport à l'État ou pas, etc., etc. Tout ce qui est censé effectivement déterminer des mœurs communes, la marque spécifique de la France, c'est au contraire une diversité particulièrement développée.
Donc il n'y a pas de morale judéo-chrétienne, par exemple.
En tout cas, tu as des...
Parce qu'une auditrice anonyme a souligné le problème de la morale, éventuellement. La morale... on parle du droit, on parle de la science, tout ça.
La morale judéo-chrétienne,
ouais. Est-ce qu'elle existe
Elle existe, elle existe peut-être, je sais pas, mais c'est pas propre à la France, de toute façon, non?
Ouais, aussi. Après, si c'est une morale judéo-chrétienne et qu'elle existe, et qu'elle est agissante en France, on retombe dans une espèce de racinisme.
Oui, mais qui sur lequel tu auras du mal à fonder une identité nationale. Hein.
Ouais, mais c'est pour ça que de toute façon, oui, ce serait chrétien et donc pas national. Ouais. Mais oui, puis c'est pour ça que, comme tu me disais, là, les différents modes de vie et différents rapports à autrui, à l'État, ainsi de suite. Ça fait penser qu'effectivement, la morale judéo-chrétienne, c'est peut-être une espèce de gros chape de plomb assez abstraite qui colle pas forcément avec toutes les réalités morales. Concrète, enfin, je sais pas.
En tout cas, sûrement pas à l'échelle nationale, quoi. Ça, c'est sûr. Alors, deux mots sur la bouffe, quand même. Parce qu'on a vu que dans la liste, effectivement, la question du vin, notre art culinaire, etc., était posée comme un élément d'identité nationale. Alors il en parle un peu. Donc, le grand débat, nous dit-il, sur l'identité nationale, évoquait la cuisine française, mais il serait plus juste ici de parler de spécialités régionales et même locales, finalement. La cuisine marseillaise n'est pas la cuisine provençale. Dès qu'il quitte Paris, d'ailleurs, le voyageur peine à comprendre souvent le menu des restaurants. Dit-il, à Amiens, il trouve de la flamiche, puis un peu plus haut, les waterzoy, et puis le poche-flèche, s'il s'aventure à Dunkerque. Vers l'est, il pourra commander en Alsace un langpauf ou un käseknepfle, je sais même pas ce que c'est. Et vers l'ouest breton, un kikafars pour terminer avec un kouign-amann. La plupart du temps, d'ailleurs, le français ne goûte pas à ses spécialités, mais consomme souvent des préparations dont l'origine est étrangère. Les pizzas, les sushis, les sashimi, les rouleaux de printemps ou les nems. Les hamburgers, les cheeseburgers, les paella, les poulets tikka, le couscous, les tagines. Voilà. Donc, alors, on en est là. Du point de vue des ressources légumineuses de notre pays. l'étendue des ressources légumineuses de notre pays. Il rappelle que Jean-Louis Flandrin, historien de la nourriture et de la cuisine, a eu beaucoup de peine à retrouver les végétaux que l'on consommait au Moyen-Âge et à comprendre comment d'ailleurs on les accommodait. Nombre de plantes introduites au cours des derniers siècles constituent nos menus quotidiens. Lucien Febvre et François Crouzet en donnent une liste édifiante. Les haricots, les tomates, les aubergines, le maïs viennent de l'Amérique centrale. Les laitues et les frisées du sud de l'Italie. Le chou-fleur est importé de Chypre et de Malte. Le melon de Naples. Il faut y ajouter la pomme de terre, les citrouilles, le tournesol, le piment, les agrumes, etc. Les arbres de nos paysages français sont aussi souvent exotiques. Le marronnier vient de l'Inde. Les peupliers et les cyprès d'Italie. Les eucalyptus d'Australie. Sans oublier le platane, les robiniers, le lilas et ce cèdre libanais du jardin des plantes dont Jussieu, dit-on, rapporta la graine dans son chapeau. Voilà. Donc, du point de vue de la cuisine, ça semble aussi assez mal barré, si effectivement.
Ouais, c'est cuit.
C'est cuit, comme tu. Bon. Alors, je passe peut-être un peu vite sur la question de la langue, parce que là, évidemment, ça va relativement vite. Ce qui montre, c'est que l'histoire de France, la manière dont s'est constitué, effectivement, en tout cas, l'État français et son rapport à la langue est une histoire qui est très compliquée et qui, en fait, est très tardive. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, l'unification linguistique de la France, elle est très récente, hein, en réalité. Et que donc, de toute façon, c'est sans doute pas là non plus de ce côté-là, hein, qu'il faudrait essayer de trouver des racines éternelles ou historiques indéniables de ce côté-là. Et puis donc, bah, peut-être après pour la dernière partie, je dirais deux mots de la partie de ce qui concerne l'histoire, hein, le fameux récit national, et puis on finira sur la question de l'immigration et de l'islam.
Bonsoir, vous écoutez Jeudi Noir pour la troisième et dernière partie. Nous sommes sur Radio Libertaire, la radio de la sans Dieu ni maître ni publicité, la radio de la Fédération Anarchiste. Et vous venez d'entendre un morceau de X-Ray Specs, Identity. Nous vous présentons un livre d'Hervé Lebras, donc Lebras avec une séparation entre le et bras. Et c'est un livre qui s'intitule Malaise dans l'identité, édité chez Actes Sud, donc très récemment, en mars 2017. Donc Hervé Lebras, Malaise dans l'identité chez Actes Sud. Et nous allons aborder maintenant la question du récit national, que nous avions eu l'occasion d'ailleurs d'aborder il y a deux émissions au sujet de tous ces historiens d'extrême droite, plus ou moins avoués, qui nous font le coup du roman national à peu près régulièrement depuis une bonne centaine d'années. Alors Jean-Mathias, qu'est-ce que Lebras a à nous dire d'intéressant sur le roman national ?
Eh bien écoute, alors parce qu'on est chez nous, parce qu'on est chez nous et qu'on a une histoire et qu'on a une identité quand même, puisque voilà, c'est une évidence pour tous ces gens, qu'en est-il effectivement du rôle de l'histoire nationale, effectivement, de nos ancêtres les Gaulois, puisque après tout, on pourrait se dire que bon, bah voilà, oui, ok, d'accord, nos ancêtres, peut-être pas à tous, peut-être pas, mais il faut bien, si tu veux, trouver des racines historiques communes pour expliquer effectivement notre vivre ensemble. Non.
Alors sur pas nécessairement.
Alors sur ce point, donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que plus sérieusement, donc c'est la question que se pose le bras. Est-ce que du coup l'identité française serait liée à une forme de mythologie, pourrait-on dire, une espèce de mythologie commune, un récit un peu voilà romancé de l'histoire nationale qui permettrait et ben voilà d'unifier tout le monde effectivement dans ce même creuset depuis Tamanrasset jusqu'à l'Indochine, Vladivostok, et en passant par la Guadeloupe et la Martinique, hein, voilà. Alors là, sur ce point-là, il se sépare un petit peu de Renan, parce que Renan, dont il est parti, effectivement, hein, cet auteur catholique, auteur de la célèbre formule là, sur la nation qui est un plébiscite de tous les jours, Renan dit, alors effectivement, ça c'est le bras qui parle d'abord, il dit, le récit national prend inévitablement de grandes libertés avec l'histoire, au point que on parle souvent de roman national. Alors c'est quoi le roman national? Ben, c'est un récit qui utilise des anecdotes plus ou moins véridiques, on le sait, du vase de Soissons jusqu'à la garde qui meurt mais qui ne se rend pas. Et Renan, nous dit Lebras, mettait déjà en garde, alors là il cite Renan, il dit, l'oubli, ça c'est Renan qui parle, hein, l'oubli et je dirais même l'erreur historique sont un facteur essentiel de la création d'une nation, et c'est ainsi que le progrès des études historiques est souvent pour la nationalité un danger. L'investigation historique remet en lumière des faits de violence qui se sont passés à l'origine de toutes les formations politiques. L'essence d'une nation est que tous les individus aient beaucoup de choses en commun et aussi que tous aient oublié bien des choses. Dit Renan. Alors, c'est une formule qui est effectivement un petit peu ambiguë, parce que c'est-à-dire il reconnaît d'une part qu'effectivement c'est du baratin, et du coup il dit attention, effectivement, plus on avance dans les recherches historiques, plus on menace ce récit national qui est pourtant indispensable, effectivement, pour forger une communauté nationale, d'après lui. Alors, donc il a cette ambiguïté. D'une certaine manière, c'est une ambiguïté qui est assumée, y compris par les partisans, hein, droitiers, ultra-droitiers d'un roman national. Sarkozy disait que, voilà, en tant que arrière-petit-fils de noble hongrois, il était parfaitement fier de dire « mes ancêtres les Gaulois ». C'est-à-dire que on recule pas là devant ça. C'est-à-dire que les partisans du récit national disent « oui, c'est faux, mais on en a besoin ». Il y a ça. Alors Lebras, il dit, bon, soit, alors il dit, le problème, c'est en fait, ce qui risque de pas marcher dans cette affaire, c'est que on est un pays qui, en fait, est beaucoup trop éduqué pour que ça marche, cette affaire-là. C'est-à-dire que on a 3 jeunes sur 4 qui sont titulaires du bac, on a une forte proportion de diplômés de l'université, en fait, il n'y en a jamais eu autant, il dit, et donc ça serait tactiquement un peu... comment dire, un peu risqué, hein, de tabler sur l'oubli et sur l'erreur historique. Alors, le problème...
Attends, on a déjà connu un peuple de poètes et de penseurs qui est tombé beaucoup plus bas, hein. Mais bon.
Ils étaient moins diplômés, il faut quand même le dire.
Ouais.
Alors, bon, effectivement, là-dessus, va peut-être un petit peu vite. Ils sous-estiment peut-être, effectivement, les capacités d'oubli, effectivement, et d'auto-aveuglement des peuples. Hein. Alors, mais bon, il lui dit, voilà, alors, en même temps, sur l'oubli, c'est pareil, c'est plutôt mal barré, parce que question oubli, on se complaît dans des commémorations. Question erreur, on a à notre disposition une masse énorme d'informations et les moyens critiques de la traiter grâce à un haut niveau éducatif. Bon, donc, en tout cas, effectivement, il nourrit les plus sérieux doutes sur les ressources, hein, qu'on pourrait avoir, effectivement, du côté du roman national pour essayer de refonder cette belle identité française. Alors, pour terminer rapidement quand même, parce que c'est un sujet qui est souvent discuté, qu'en est-il des immigrés et des musulmans concernant cette identité nationale menacée, comme chacun sait? Alors, d'abord, il remarque une chose, il dit que pour les militants identitaires, alors au sens très très large, finalement... il nous en dit jamais vraiment beaucoup sur ce que c'est qu'être français. Et pour cause, puisqu'effectivement, depuis le début du bouquin, il nous explique que c'est...
Qu'on en a aucune idée, en réalité.
Qu'on en a aucune idée, ou qu'en tout cas, l'idée qu'on peut en avoir est très, très, très éloignée de celle qu'eux en ont. Et au fond, il dit, finalement, et ça, je trouve ça assez juste, en fait, c'est simple, mais voilà, je ne m'étais jamais formulé comme ça, que pour un identitaire, être français, c'est ne pas être immigré et ne pas être musulman. Voilà.
Oui, comme c'est ça, une définition purement négative.
C'est une définition purement négative, et c'est effectivement comme ça que le truc fonctionne. Alors, sur l'affaire de l'immigration, très vite, il rappelle une chose, alors qui est intéressante aussi, il parle de l'histoire des statistiques de l'immigration en France, et il dit que on a un problème de ce point de vue-là, parce que pendant très longtemps, en fait, on ne disposait pas des chiffres de sortie du territoire. C'est-à-dire que les seules statistiques dont on disposait, c'était effectivement les entrées, l'immigration, mais que l'émigration n'a été mesurée que très récemment. Voilà. Et que du coup, ça a laissé effectivement s'installer cette espèce d'idée fausse que on a une espèce de flux d'entrants, et on prend jamais en compte effectivement le nombre de Français qui vivent à l'étranger. Il dit, si on fait les tout mis bout à bout, alors pareil, je vous ai parlé les chiffres là parce qu'ils sont précis, hein, donc là vous pouvez aller voir, on est page 84, vous avez ça. Mais si on fait effectivement la comparaison entre le nombre d'entrants et le nombre de sortants, on arrive à un solde qui est relativement stable. C'est-à-dire qu'il y a à peu près autant effectivement d'étrangers qui entrent en France chaque année que de Français qui vivent à l'étranger. Hein? Ce qui est pas. Alors après, effectivement, ça ne veut pas dire que ça modifie pas.
Faut-il en conclure que nous sommes envahis ou que nous envahissons le monde?
Ni l'un ni l'autre, en fait. Ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que c'est globalement, c'est stable. Alors ça ne veut pas dire que ça transforme pas effectivement la réalité démographique, sociale, etc. De la population française, parce qu'il y a effectivement un turnover très très important. Hein. Mais du point de vue statistique et quantitatif, c'est une donnée qui est quand même importante, parce que effectivement, l'idée qu'il y aurait effectivement comme ça une espèce de numerus clausus qui serait envahi et complètement débordé par le monde est tout simplement fausse. Alors sur la question de l'islam, je retrouve plus les chiffres là-dessus. L'idée, c'est de toute façon que, en fait, l'erreur, effectivement, enfin, la manière dont on apprécie effectivement la réalité de l'islam, son caractère extérieur, étranger à la population française, est de toute façon démontée là aussi par les faits. C'est-à-dire qu'effectivement, t'as des Français musulmans, voilà, c'est une réalité nouvelle. Oui. T'en auras peut-être de plus en plus. La réalité des pratiques, d'après lui, c'est de toute façon mené à un déclin comme à peu près la plupart des religions, pour rester sous des seuils qui sont assez marginaux. Et de toute façon, l'idée qu'on aurait comme ça, voilà, l'invasion ou l'immigration musulmane, en fait, ne correspond de toute façon quantitativement pas à une réalité telle qu'on l'observe dans les faits. Alors donc, sa conclusion, c'est ça, c'est de dire que de toute façon, même si on parle de culture au sens très très large, la réalité des cultures, c'est précisément le chevauchement et l'hybridation, en réalité, et c'est pas simplement une... Enfin, c'est des choses simples, en fait, quand on y réfléchit assez. Et c'est pas de la haute spéculation, effectivement, critique. C'est simplement une simple observation de données pas très compliquées, hein, permettent de conclure. Donc, voilà sa conclusion. De toute façon, si on peut parler d'identité française, c'est une identité qui est en constante évolution, qui est dynamique, hein, qui est celle du métissage, et qui est liée, effectivement, à un certain nombre de facteurs géographiques, historiques, démographiques propres à la France, mais qui permettent absolument pas de tracer les contours d'une identité telle que le voudraient aussi bien Fillon, Zemmour, Marion Maréchal Le Pen.
Et quelques autres.
Et quelques autres qu'on embrasse.
Donc c'était Hervé Lebras, Malaise dans l'identité, chez Actes Sud. Vous pourrez retrouver toutes les références sur le site Gurdulu, Jeudi Noir. Et nous laissons la place à Entre Chien et Loup, et à Willy et tout le monde. Ciao, on se retrouve dans 2 semaines.